Bonjour, docteur. J'aimerais vous parler. Combien de temps croyez-vous qu'elle va rester comme ça, Lydia?
Des mois, des années. Toute la vie.
Elle peut ouvrir les yeux? Ou est-ce une hallucination de ma part?
Non, non, elle peut ouvrir les yeux. Mais ça ne signifie pas qu'elle vous voit. Elle ne se rend compte de rien. Elle peut ouvrir les yeux, mais c'est par pur réflexe. Son cerveau ne peut concevoir de pensées ni ressentir d'émotions.
Un extrait du film « Parle avec elle » de Pedro Almodovar pour évoquer aujourd'hui Héloïse, notre une de la science, une étude qui met les infirmiers et les aides-soignants au centre de l'évaluation de l'état de conscience des patients.
Oui Daniel, des équipes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, de l'Inserm et de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière ont montré que l'appréciation de ces soignants concernant l'état de conscience des patients représentait une réelle valeur ajoutée aux diagnostics médicaux et aux examens d'imagerie cérébrale classique. L'outil sur lequel est basée la méthode a été baptisée Doc Feeling, Doc pour Disorders of Consciousness, et il fait l'objet d'une publication dans la revue British Medical Journal Open. Nous sommes au téléphone avec Bertrand Herrmann, le premier auteur de l'étude. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue spécialisé en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, dans votre étude, vous êtes intéressé à des patients en état de conscience dite altérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité pour ces personnes?
Oui, alors ce terme d'état de conscience altéré, il fait référence en fait à des patients qui ont eu une lésion cérébrale grave, des patients qu'on peut dire cérébro-lésés. La plupart du temps, c'est un traumatisme crânien sévère ou des séquelles après un arrêt cardiaque et qui, après une phase de coma, récupèrent un certain degré de vigilance, ouvrent les yeux, mais ne sont pas pour autant conscients et capables de communiquer. Et ils peuvent présenter une altération qui est plus ou moins sévère, qui peut être l'observation uniquement de comportements qui sont réflexes, ce qu'on appelle l'état végétatif, ou alors des comportements un peu plus riches, comme le fait de suivre du regard, de répondre parfois à une commande, serrer la main, fermer les yeux, mais de manière pas assez reproductible pour communiquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état de conscience minimal.
Donc ces patients, ils ne peuvent pas communiquer par définition. Comment habituellement les médecins évaluent-ils la sévérité de l'atteinte de la conscience ?
Alors habituellement, on a justement des échelles comportementales comme l'échelle de récupération du coma qu'on utilise comme référence dans l'étude, qui de manière standardisée évalue différents comportements comme le fait de répondre à la commande, d'interagir avec l'environnement, avec des objets divers, d'essayer de parler. Et on utilise cette échelle mais qui nécessite de l'expertise, d'être formée, souvent faite par les médecins et qui prend du temps. Et donc là, on a voulu essayer de faire un outil qui soit basé sur le ressenti subjectif des paramédicaux qui sont plus souvent au contact du patient dans la journée, sur une semaine d'hospitalisation par exemple.
Donc là, dans ce travail, vous êtes appuyé sur des stratégies beaucoup plus simples pour évaluer les états de conscience, avec des personnels soignants a priori beaucoup moins qualifiés. Expliquez-nous ce que vous avez fait.
Oui, alors effectivement, la conscience, même si on peut l'objectiver et la quantifier, ce qu'on fait tous les jours en utilisant des techniques d'imagerie aussi compliquées, il y a une composante éminemment subjective et le but de l'étude, c'était de voir si on pouvait quantifier cette expertise subjective développée par les soignants, donc infirmières et aides-soignants auprès du patient. Et alors demander à la fin de leur journée de travail de coter sur une échelle visuelle analogique comme une échelle de la douleur de 0 à 10, de mettre un petit trait sur cette flèche qui va de 0 à 10 pour évaluer l'état de présence du patient. Et la question c'était, le patient est-il présent ou semble-t-il présent? Et on avait sur 47 patients, on a recueilli à peu près 700 évaluations de ces différents personnels paramédicaux et on se rend compte que chaque évaluation individuelle est intéressante mais est assez bruitée, parfois certains surestiment, d'autres sous-estiment l'état de conscience, mais que quand on fait appel à ce principe d'intelligence collective, de faire la médiane des observations pour un patient, on a un très bon taux de diagnostic de l'état de conscience comparé aux méthodes standards dont je vous ai parlé, d'échelles comportementales qui sont assez complexes.
C'est assez surprenant parce que ça signifie que vous ne demandez même pas de justification aux aides-soignants, vous leur demandez voilà, un sentiment, ils ont le sentiment quand ils entrent dans la pièce de ce patient d'être avec quelqu'un qui est plus ou moins conscient et vous ne leur demandez aucun critère pour justifier ce sentiment ?
Oui, c'est ça. Alors justement, doc feeling, on a dit doc, c'est pour disorder of consciousness, mais le côté feeling, ça fait un peu appel à l'expression anglaise gut feeling, ce sentiment, cette intuition un petit peu. Ce qu'on voit, on avait évalué d'autres choses aussi par les soignants, c'est que ce sentiment, il passe pas par c'est pas magique, il passe par des items que nous, on cote habituellement dans les échelles comportementales, comme le fait de suivre du regard, comme je vous ai dit, le fait d'interagir pendant les soins de nursing, de toilette, ou de répondre à la douleur de manière adaptée, par exemple quand on fait une prise de sang. Toutes ces choses-là, mais qui sont un peu, qui sont englobées dans cette échelle. Et effectivement, le fait que ce sentiment subjectif soit pertinent, c'est intéressant aussi parce que ce sentiment subjectif, c'est ce que nous rapportent souvent les familles. et ça nous permet de parfois de comprendre un petit peu les discordances entre le ressenti du personnel paramédical, de nôtre aussi, ou celui des familles, par rapport à des évaluations qui sont standardisées, où l'IRM, le G disent non, ce patient a un niveau de conscience très altéré, et parfois les gens perçoivent un peu plus. Et donc ça peut nous permettre de démêler des situations où parfois vraiment ce qui est perçu, c'est parce que le patient fume plus beaucoup, ou c'est parce que c'est sur des choses qui sont mal évaluées par la clinique, comme les émotions, la réponse à la prise de conscience, notamment quand on dit une blague ou des choses comme ça, d'observer les émotions, ça c'est des choses qu'on n'évalue pas bien dans la clinique habituellement. Et donc ce sentiment un peu global, ça permet de capturer différentes facettes de la conscience.
Et donc ces résultats, les résultats de cette intelligence collective, ils sont pertinents vraiment? Ça dit quelque chose de l'état du patient? Ça, vous avez pu l'objectiver?
Donc on l'a comparé aux méthodes de référence, donc à cette échelle de récupération du coma, et on a plus de 90% des patients qui sont bien classés par cette mesure par rapport à cette méthode de référence. Donc c'est intéressant, ça c'est pas fait pour remplacer ces études, ces échelles comportementales qui sont nécessaires, qui sont aussi en complément de l'électroencéphalogramme, de l'imagerie, mais c'est une facette complémentaire justement qui capture ce sentiment subjectif qui était un peu manquant jusqu'à maintenant.
Alors une toute dernière une toute dernière question d'Héloïse.
Oui, assez rapidement, pourquoi est-ce que les médecins ont vraiment envie de connaître avec précision l'état de conscience d'un patient? Qu'est-ce que ça dit de son futur ou de son présent d'ailleurs?
Oui, alors il y a peut-être trois choses pour lesquelles c'est important. La première, c'est effectivement d'évaluer le pronostic. C'est la question qu'on nous pose le plus souvent. Et effectivement, l'état de conscience d'un patient à un moment donné, compte tenu de la lésion cérébrale, de la cause, ça varie un petit peu bien sûr en fonction de la cause, nous indique beaucoup le pronostic futur de récupération de la conscience, mais aussi simplement le pronostic vital la plupart du temps. Et ensuite, il y a aussi pour justement pouvoir bien informer les familles de qu'est-ce que les patientes sont capables de comprendre, de ressentir l'environnement. Ça, c'est important. Et après, il y a bien sûr la thématique de recherche, de essayer de comprendre mieux la conscience et la physiologie de la conscience, notamment lorsqu'elle est altérée.
Merci Bertrand Herrmann, je rappelle que vous êtes neurologue spécialisé en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et Héloïse, à demain.
À demain Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, alors que le glyphosate revient sur le banc des accusés aux États-Unis, la France veut trancher la question de la dangerosité de l'herbicide en lançant prochainement une nouvelle étude. C'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui l'a annoncé hier. L'étude présentée comme indépendante aura notamment pour but de clarifier le caractère cancérogène ou non du glyphosate. Dans les semaines qui viennent, le cahier des charges sera transmis au ministre de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement, qui avait précédemment saisi l'agence. On en sait un peu plus sur la fin de la cité d'Angkor. La puissante ancienne capitale Khmer au Cambodge a été complètement abandonnée au 15e siècle. Mais les circonstances de cette désertion restent une vraie question pour les scientifiques. Les travaux d'une équipe internationale d'archéologues publiés dans la revue PNAS laissent penser que l'abandon de la cité n'a pas été soudain et que son déclin a commencé dès le 14e siècle. Les archéologues ont remonté le temps grâce à une carotte de terre de 70 cm creusée dans une douve de la cité. Le sédiment ayant gardé en mémoire année après année tous les changements dans l'utilisation de la terre et la végétation, ils ont pu s'apercevoir que l'exploitation du sol avait cessé de façon progressive et non soudaine, comme certaines théories le prétendent. Enfin, chaque printemps, c'est le même rituel pour les baleines bleues. Elles remontent lentement au large du Costa Rica, vers le nord, le long de la côte ouest des États-Unis, pour se régaler de leur nourriture préférée, le krill. Jusque-là, les scientifiques ne savaient pas bien comment elles décidaient de leur itinéraire. Une étude parue dans la revue PNAS montre que les baleines ne se fient qu'à une chose durant leur périple, leur mémoire. Elles s'en tiennent à l'itinéraire dont elles se souviennent et non pas de détour pour, elles ne font pas de détour pour traquer le krill. Les baleines bleues préfèrent donc jouer la sécurité plutôt que d'adapter leur parcours à la nourriture.